C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement au changement. Comment guider les personnes vers de nouvelles pratiques? En quoi la psychologie rentre-t-elle en jeu? Quelles sont les initiatives de changement prises en région Normandie?
Nos invités du jour pour en discuter sont Cécile Sénémo, professeure de psychologie sociale et directrice du laboratoire de psychologie de Caen-Normandie.
Et Marion Brosseau, en charge des liens recherche et territoire au sein de l'ANBDD, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Mais tout de suite, le flash science avec les infos de la semaine.
Au bout de 15 jours, plus un bonus de discussion intense et la frustration qui règne à l'heure de la fin de la COP26 de Glasgow. C'est presque les larmes aux yeux que Alok Sharma, le président de cette conférence, s'est dit profondément attristé de l'issue tiède de ce sommet sur le réchauffement climatique. Le pacte de Glasgow pour le climat n'impose rien aux États et ne s'attaque pas aux causes du changement climatique, c'est-à-dire l'exploitation des hydrocarbures, cause numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, la catastrophe climatique frappe toujours à la porte, a averti Antonio Guterres, le premier secrétaire de l'ONU, qui selon ses dernières estimations annonce que le monde se dirige vers un réchauffement climatique de 2,7 degrés, et cela même si les États respectent leur plan d'action pour 2030.
Vous ne l'avez peut-être pas ressenti, mais un tremblement de terre a bel et bien eu lieu hier à Caen. C'est aux alentours de 6h du matin que les secousses se sont faites ressentir autour de l'épicentre situé entre Hérouville-Saint-Clair et Monteville. D'après les données du réseau national de surveillance sismique, le tremblement d'une magnitude de 2,5 sur l'échelle de Richter a tout de même été ressenti par certains habitants.
IADE, au premier abord, ces lettres ne vous évoquent pas grand-chose, mais si je vous dis qu'elles ont été visibles grâce aux lumières des fenêtres sur la façade du CHU de Caen, eh bien ça veut dire infirmier anesthésiste diplômé d'État, et c'est une profession en grève depuis 2 semaines à travers les hôpitaux de France. Leur profession est en effet menacée de disparition car sans une reconnaissance de leur statut d'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée, leur mission pourrait être assimilée à celle d'infirmier classique, ce qui n'équivaudrait pas à la revalorisation salariale pourtant prévue dans le Ségur de la Santé. Les grèves sont donc attendues dans les blocs opératoires du CHU de Caen cette semaine, et plus largement, c'est un nouveau mouvement de colère et de fatigue qui se propage dans les hôpitaux français à l'heure où une 5e vague de Covid-19 approche.
Après le retour de Thomas Pesquet et de l'équipage du Crew Dragon 2 sur Terre mardi 9 novembre, un nouvel équipage est venu poser bagage dans la Station Spatiale Internationale. Il s'agit de la mission Crew Dragon 3 pilotée par SpaceX. Composée de 3 Américains dont une femme et d'un Allemand, ils sont arrivés le jeudi 11 novembre à bord de l'ISS pour effectuer une mission de 6 mois en orbite. Kayla Barron, Raja Shari, Tom Marshburn et Matthias Maurer auront donc pour mission la réalisation de nombreuses expériences, comme celle de faire pousser des plantes dans l'espace ou d'installer des panneaux solaires sur l'ISS.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
L'accompagnement au changement. Ce processus est destiné à apporter des bouleversements dans les pratiques d'une personne ou d'un groupe de personnes. On la retrouve ainsi dans des domaines très variés, allant de l'agriculture à l'éducation, en passant par la rénovation énergétique.
Nos invités en studio pour en discuter sont Cécile Sénémo, bonjour. Vous êtes professeure de psychologie sociale et directrice du laboratoire de psychologie de Caen-Normandie.
Et Marion Brosseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge des liens entre la recherche et les territoires au sein de l'ANBDD, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Alors Cécile Sénémo, l'accompagnement au changement est un processus dont nous le verrons, les applications ont lieu dans des domaines très variés. Mm-hmm. Mais quel est le lien avec la psychologie sociale ?
Eh bien, la psychologie sociale peut être une ressource ou est une ressource importante dans le but de comprendre quels peuvent être les déterminants des pratiques et du changement de pratique. Donc, il y a un intérêt de compréhension des phénomènes et des processus psychologiques, mais également un intérêt de mise en place de dispositifs pour mieux conduire ce changement, pour mieux accompagner les personnes.
Et comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur l'accompagnement au changement au sein du LPCN ?
Alors, le LPCN, donc, qui est un laboratoire de psychologie assez récent, porte sur globalement l'accompagnement au changement dans différents domaines, avec différents types de techniques ou de démarches. Mais globalement, on va s'intéresser à l'accompagnement au changement lié, par exemple, aux conduites addictives, lié au comportement éco-citoyen, lié au décrochage scolaire ou plutôt aux apprentissages scolaires pour lutter contre justement les problèmes liés à l'apprentissage à l'école. Et on a été amené à s'intéresser à cela parce que c'est une thématique qui va réunir l'expertise de bon nombre de chercheurs en psychologie qui ne sont pas que des psychologues dits sociaux, mais aussi des neuropsychologues, des psychologues cognitivistes, des psychologues de psychopathologie, des cliniciens. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais du coup, moi, je travaille là-dessus depuis maintenant un bon nombre d'années. Et j'ai été amenée à m'y intéresser, c'est un peu ma passion quoi en fait, hein. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens font ou ne font pas, qu'est-ce qui fait que dans la vie au départ on va nourrir des convictions concernant n'importe quel objet social et pour autant ne pas agir dans le sens de ces convictions, comment les gens gèrent ce décalage, par exemple on est favorable au don du sang mais pour autant on ne donne pas. On va être bien sûr favorable à préserver la planète et pour autant, au quotidien, on ne fait pas énormément d'éco-gestes ou pas assez. Donc comment on gère ce décalage et nous, en tant qu'experts, comment on va résorber ce décalage pour pouvoir accompagner les gens à avoir des conduites louables.
Alors justement, il y a un décalage entre les convictions et parfois le fait de les faire. Mmh. Pourquoi on a ces, entre guillemets, mauvaises habitudes?
Ce ne sont pas de mauvaises habitudes. Il y a une rationalité à ça, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut très très bien être favorable à quelque chose et pas pour autant passer à l'action. Parce qu'il y a effectivement la sphère des attitudes, des opinions, des convictions et la sphère comportementale, c'est très très différent, quoi. Et passer à l'action, ça va être très coûteux et on peut très bien gérer dans la vie de penser des choses et pas pour autant agir en conséquence de ces pensées.
Marion, Cécile nous l'a dit un peu plus tôt, le changement des habitudes, ça peut aussi concerner les habitudes liées à l'environnement. Et pourquoi est-ce que la NBDD, elle a décidé de se saisir justement de ce sujet, de l'accompagnement au changement en ce qui concerne le développement durable?
La NBDD, si elle s'en est saisie, c'est parce qu'on nous a fait remonter ce besoin, en fait, comme on travaille vraiment auprès des territoires, auprès de nous, ce qu'on appelle les décideurs, hein, c'est-à-dire les élus, mais aussi des agriculteurs, des responsables d'associations, nous ont fait valoir, en fait, leur difficulté à faire modifier certaines pratiques pour que, justement, par exemple, des plans d'action qui ont été réfléchis en faveur de l'environnement, du développement durable, en termes de mobilité, par exemple, de tri des déchets. Voilà, ils constataient qu'il n'y avait pas d'amélioration malgré ce qu'ils mettaient en place. Et c'est là où l'intérêt de travailler avec les psychologues sociaux nous a paru vraiment pertinent, puisqu'on a vu que c'était pas un manque de savoir-faire de la part des territoires, un manque de communication, c'était juste qu'ils communiquaient pas de la bonne façon, puisqu'ils n'avaient pas compris finalement là où étaient les blocages de leur public cible.
Alors Cécile Sénémo, dans la présentation du dispositif de recherche Agri-O, qui est une étude au sein du laboratoire LPCN, il est dit « Si la quasi-totalité des personnes sont convaincues de l'importance de protéger l'environnement, elles ne passent pas pour autant à l'action. » Vous avez parlé d'écart entre attitude et pratique. Est-ce que c'est ce que vous étudiez aussi dans l'accompagnement au changement ?
En partie, bien évidemment, on étudie cet écart, donc on tente de mieux en comprendre les raisons. Dans le but, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, de pouvoir le résorber, ce qui était également ce qui est le cas dans le cadre de l'étude que nous avons appelée Agri-O, par exemple, hein, et qui va concerner la préservation de la ressource en eau par les agriculteurs. Mais ce qui est aussi le cas dans bon nombre d'études que nous menons au laboratoire, j'ai tout à l'heure pas pris l'exemple du don du sang au hasard. C'est-à-dire qu'on va aussi travailler, par exemple, sur l'écart qui existe entre le fait d'avoir envie de donner son sang, d'y être favorable et de ne pas le faire, ou l'écart qui existe entre le fait d'avoir envie de préserver sa santé et de diminuer sa consommation d'alcool et pour autant avoir du mal à le faire.
Et quels vont être, du coup, les freins au changement et d'où viennent-ils?
Alors, les freins au changement, on peut dire, sont multiples. Alors, ils ne sont pas tous psychologiques, sauf que moi, bien sûr, ma partie, c'est la partie psychologique. Il y a des freins au changement qui sont très structurels, d'accord ? liées aux conditions de vie. Et il y a des freins au changement plus psychologiques qui vont être de l'ordre cognitif, motivationnel, émotionnel, comportementaux. Et l'idée pour nous, c'est d'essayer de faire un peu la part des choses, c'est-à-dire de pouvoir voir quelle est la part de ces freins au changement psychologique par rapport à des freins plus environnementaux, dans le but effectivement de pouvoir actionner ensuite des leviers qui vont permettre de résorber ces freins. Alors après, je peux illustrer, vous me dites quand je dois illustrer, parce que je sais pas, voilà, comme vous le souhaitez. Quand je vais parler par exemple de freins cognitifs, ce sont tous les freins qui sont liés à la perception des connaissances que l'on a sur un phénomène ou des croyances que l'on a sur un phénomène. Si on prend l'exemple plutôt de conduite éco-citoyenne, ça va être la perception que l'on a du risque lié au changement climatique, à ses conséquences, la perception que l'on a de sa proximité, aussi bien spatiale que dans le temps. C'est-à-dire, s'il est très proche de moi, peut-être qu'on pourrait penser que ça pourrait nous amener plus facilement à agir. Et encore, on travaille là-dessus, c'est pas forcément le cas. Il y a des freins qui sont plus dits motivationnels. La motivation, c'est-à-dire à quel point est-ce que je vais avoir la volonté, l'envie de le faire. C'est une question d'intensité. On sait que la motivation, c'est pas « j'ai envie, j'ai pas envie ». C'est un processus qui part de personnes qui sont tout à fait réfractaires au changement. Et ensuite, on va commencer à y penser, à y réfléchir, à peser le pour et le contre. Puis on va se dire, maintenant, ça y est, je peux changer ma pratique. Mais finalement, j'arrive pas à trouver une concrétisation comportementale. En tout cas, j'ai du mal à passer à l'action, même si j'y suis favorable. Donc là, et la personne peut évoluer, en fait, dans son processus motivationnel. Voilà, où les freins peuvent être émotionnels. C'est ce que je ressens quand je fais une action et ce que je ressens quand j'anticipe l'action une fois qu'elle est produite. Est-ce que je vais être fière d'avoir changé ma pratique? Est-ce que je vais être déçue si j'imagine de ne pas le faire? Donc tous ces freins dits psychologiques, bien sûr, une fois qu'on les a identifiés, on va tenter, alors de les lever, c'est un bien grand mot, en tout cas on va tenter peut-être de pouvoir jouer là-dessus dans le but d'accompagner, de rassurer les gens.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptives à cette démarche d'accompagnement au changement et qui restent bloquées dans leurs freins?
Oui, la réponse peut être oui. Et notre travail à nous, effectivement, c'est de pouvoir identifier des profils en fait, de personnes, des profils de cibles et apporter le bon accompagnement à la bonne personne. En fait, si on pouvait, on ferait du cas par cas, limite. Effectivement, quelqu'un qui est tout à fait convaincu de la mise en place d'une action, par exemple je regarde Marion pour les agriculteurs. Alors, je suis pas du tout technique là-dessus, mais on a travaillé avec Bayeux Intercom sur la mise en place. Bayeux Intercom a élaboré un programme d'action. On a travaillé avec eux pour valoriser ce programme d'action. On va avoir des catégories d'agriculteurs qui sont assez favorables au fait de passer à l'action, mais qui identifient un certain nombre de freins économiques, temporels, de peur de la perte. De certaines conditions de travail, de détérioration des conditions de travail. Donc, on va pouvoir les accompagner pour leur montrer que, pas qu'ils ont tort, mais en tout cas que ces freins peuvent être levés. Et d'autres personnes, en revanche, sont tout à fait opposées au fait d'évoluer dans leur propre pratique. Donc, dans ce type de cas, pour nous, il s'agit en fait d'amener les gens plutôt à prendre conscience de l'intérêt de l'évolution. Alors, pour la planète, certes, mais surtout, au départ, pour soi. Également et pour son propre travail, ses propres pratiques. Donc oui, des gens peuvent être réfractaires, notre travail c'est de tenter qu'ils le soient un peu moins.
Vous parliez de l'exemple avec les agriculteurs, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission, puisqu'on a tendu notre micro à Sonia de Habreux. Et Marion, je vous voyais acquiescer, est-ce que vous remarquez qu'il y a des freins au changement dans le cadre du développement durable en Normandie ?
Oui, c'est justement pour ça aussi qu'on travaille dessus, enfin, évidemment. Et on a remarqué notamment que des fois, plus on communique sur, par exemple, le changement climatique, et ça, plus les gens, finalement, c'est limite anxiogène, et ça les bloque encore plus de changer. Et c'est là où on se dit, nous, on trouve aussi des moyens de parler de développement durable sans que ça devienne angoissant, et notamment par faire échanger les gens, les faire se rencontrer, montrer que c'est possible. À quelqu'un qui a un profil proche du mien, voilà, je vais le visiter. Nous, par exemple, on met en place des détours, c'est-à-dire qu'on part en bus avec les gens, on les emmène voir, par exemple, une exploitation, quelqu'un qui leur ressemble, qui a mis en place quelque chose, ça fonctionne. Et du coup, ils échangent avec cette personne, ils se rendent compte que, en fait, c'est possible. Mais tant qu'on leur montre pas le champ des possibles, que eux sont en capacité de faire, forcément, oui, il y a des difficultés de changer. Sur la mobilité, c'est pareil, en fait. heureusement, bah, on travaille ensemble pour faciliter le changement.
C'est aussi pour ça que vous avez contacté le laboratoire du LPCN ?
Ah oui, tout à fait, parce que nous-mêmes, on se retrouvait des fois un peu démunis, puisqu'on voyait que, voilà, on se dit, mais pourtant, on communique dessus, c'est bizarre, les gens, ça les interpelle pas. Mais non, parce qu'à ce moment-là, c'était pas le message qu'ils avaient besoin de recevoir. Nous, on a vraiment cette image d'escalier du changement. Quand on est vraiment en bas de l'escalier, on n'a même pas conscience que le problème existe. Et c'est pas en nous donnant plein d'informations que ça va aider finalement à monter d'une marche en disant « Ah, je suis en capacité d'agir ». Et finalement, en travaillant justement avec le LPCN, nous aussi, on a monté en compétences hein, sur la psychologie sociale, mais on a toujours besoin d'être avec eux, pour comprendre justement où sont les freins, comment est-ce que nous, derrière, justement, qui sommes des facilitateurs, on peut aller trouver d'autres acteurs pour communiquer le bon message à la personne qui attend d'avoir ce message finalement pour monter d'une marche sur l'escalier du changement, quoi.
Alors vous parlez de marche, ça veut dire qu'il y a un certain processus à mettre en place. Cécile, quelle est concrètement la démarche, la démarche psychologique qui permet d'accompagner au changement ? Est-ce qu'il y a des phases particulières ?
La démarche, c'est une démarche qui va au départ peut-être paraître un peu basique ou assez commune. C'est en fait une démarche qu'on appelle de conduite de projet. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller travailler auprès de la population dans le but de connaître les raisons pour lesquelles les gens passent à l'action ou ne passent pas à l'action. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens font et qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas. Et la plupart du temps d'ailleurs, on opère une sorte de comparaison. Nous, on analyse ça, donc on va essayer de comprendre ce qu'on appelle là les déterminants d'un comportement et aller comparer en fait ceux qu'ils font par rapport à ceux qui ne le font pas, qu'est-ce qu'il finalement faudrait dire à ceux qui ne le font pas pour qu'ils rentrent dans la catégorie du fait de le faire. Et donc cette première phase permet en fait d'aller travailler, d'identifier les cibles, d'accord, et de comprendre tous ces rouages, donc cognitifs, motivationnels, les émotions qui sont liées à tout ça, le rapport avec l'entourage, l'identité, les aspects derrière le comportement. Donc on étudie tout ça, en n'oubliant pas bien sûr de regarder le lien entre ces freins et ces leviers psychologiques et tous les aspects environnementaux qui existent. Phase 1. Et en deuxième étape, si on parle de démarche, on va proposer un accompagnement. Alors, la plupart du temps, on travaille donc avec des acteurs sociaux, des structures qui vont permettre d'accompagner les projets, de les financer. Et cet accompagnement que nous proposons, il se fait vraiment sur la base de ce qu'on a identifié en première phase. C'est-à-dire que si on a vu effectivement en première phase, pour exemple, ce dont parlait Marion, que le sentiment qu'on appelle d'auto-efficacité est faible, c'est-à-dire j'ai faiblement confiance à ma capacité à faire le comportement attendu. Si on voit que ce sentiment est très bas chez les cibles identifiées, on va trouver nous des moyens, on a des moyens, des leviers pour rehausser ce sentiment et faciliter le passage à l'action. Phase 2. Ça peut être, je reprends l'exemple de Marion exprès, effectivement en utilisant l'exemplarité, c'est-à-dire quelqu'un qui me ressemble, qui passe à l'action. Si lui y arrive, pourquoi pas moi ? Et ce qu'on appelle aussi le modelage social, donc ces exemples en fait, vont permettre finalement d'amener la personne à réavoir confiance en sa capacité à elle aussi passer à l'action. Et du coup, elle avance dans cet escalier du changement. Et en phase 3, ce qui nous tient à cœur, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, c'est d'aller vérifier que ces dispositifs que l'on met en place sont efficaces. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, par exemple, donc, mis en place une activité qui va consister à faire ce qu'on appelle de la ferme ouverte. C'est l'exemple que donnait Marion. Donc, un agriculteur ouvre les portes de son exploitation. D'accord ? Il va montrer comment est-ce qu'il a réussi à mettre en place une des actions préconisées. C'est une façon, en fait, de pouvoir accompagner les autres. Et à la suite de cela, nous, on va mettre en place des mesures qui vont permettre de vérifier que cette ferme ouverte et ce qu'on a proposé à l'intérieur a bien été efficace pour pouvoir motiver d'autres agriculteurs à se lancer dans l'action. Donc, phase 1, je comprends. Phase 2, j'interviens, j'accompagne. Et phase 3, je vais mesurer si l'accompagnement a des effets.
Vous restez avec nous, on va continuer la discussion après une petite pause musicale. Voici Grumpy Old Man de Rémi Wolf sur Radio Phoenix.
Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know you don't know about yet. Listen. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive.
caught up in the mud, and they're the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Sweater, got that long hair, long beard, turtleneck sweater. You got short hair, short beard. Nothing feels better than me and you and me and me. I'm so defensive, I got boobies on my booty. I got feelings in my feelings, I got violence on my violence, yeah. I'm so defensive, I got fire in my fire. I got whiskey in my shower, got my dancing feet on play. I got long hair.
Dans C'est pas faux, c'était Grumpy Old Man de Rémi Wolf sur Radio Phoenix.
Aujourd'hui, nous abordons la question de l'accompagnement au changement avec Cécile Sénémo, directrice du laboratoire de psychologie de Caen, Normandie, et Marion Brosseau, en charge des liens recherche et territoire au sein de l'ANBDD, l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable.
On en parlait un petit peu plus tôt, l'ANBDD joue un certain rôle dans l'accompagnement au changement. Et quelle forme prennent les ateliers que vous proposez à l'ANBDD ?
On essaie de faire en sorte que l'atelier soit au plus près des besoins identifiés du territoire, quelle que soit la thématique. Hein, et donc ça peut être soit, comme on disait tout à l'heure, des temps de rencontre avec des personnes qui sont déjà lancées dans une action et qui ainsi peuvent en parler et montrer que c'est possible. Ça peut être aussi des temps des fois de concertation où les personnes vont déjà échanger entre elles et on fait appel dans ces cas-là à l'intelligence collective aussi. Rien que des fois en échangeant, ça permet de lever des freins. Et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est d'avoir des temps où on fait intervenir des chercheurs qui là viennent aussi montrer en quoi la recherche peut venir aider à lever des freins et apporter finalement des réponses concrètes qui peuvent être mises en pratique vraiment au plus près des territoires. Quelle que soit l'échelle du territoire, hein, je parle aussi bien de collectivité que même à l'échelle d'un lycée. C'est quelle que soit l'échelle, en fait, on peut mettre en place ces dispositifs.
Vous ciblez quel public à l'ANBDD ?
Alors nous, on est quand même sur un public professionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment aller vers un public scolaire. On s'intéresse particulièrement aux étudiants, puisque c'est un peu les décideurs de demain. Et sinon, c'est vraiment voilà, les collectivités, les techniciens au sein de ces collectivités, hein, pas uniquement les élus, hein, on vit souvent le binôme technicien-élu. Et puis aussi bah, ceux qui font le territoire, c'est-à-dire voilà, les agriculteurs, ceux qui ont un métier aussi qui, de par leur action, va avoir un impact positif ou négatif, hein, sur le développement durable.
Vous nous parlez des techniciens des collectivités, mais comment est-ce que l'ANBDD est venue en appui de ces collectivités pour qu'elles changent leurs habitudes, en l'occurrence néfastes pour l'environnement ?
Bah là, c'est vraiment par des ateliers, quoi, en fait. C'est proche des fois de la formation. Par exemple, je me souviens, on a vraiment une thématique qui était le zéro phyto dans les cimetières. Ça paraît hyper précis, mais en fait, les techniciens qui sont en charge des espaces verts, par exemple, vraiment, ils étaient bloqués. Ils se disaient, mais non, on ne sait pas faire ça, on a l'impression que c'est un retour en arrière, comment ça, on doit laisser pousser les herbes, et puis la petite grand-mère qui vient dans le cimetière, elle va nous incendier, en fait, si ce n'est pas propre, entre guillemets. Donc, vous voyez, c'est un peu leur donner les outils, les clés, pour eux-mêmes être en capacité de dialoguer avec la personne, se réassurer sur leur propre capacité à faire, leur montrer que techniquement c'est possible et les valoriser aussi. Leur montrer que par leur changement de pratique, ils vont ressentir justement une émotion positive, ils vont pouvoir valoriser ce qu'ils font auprès de leur famille, etc. et leur dire bah, « j'agis pour le développement durable en arrêtant le phyto dans les cimetières ». Donc ça, c'est un exemple vraiment pratique, mais ça montre que par justement hein, ces temps de rencontres, d'échanges, de formation, d'apport d'informations, de connaissances, ça va les aider à changer. Et puis derrière, c'était la volonté de la collectivité, par exemple.
Est-ce que dans l'optique d'accompagner au changement, vous impulsez d'autres actions, peut-être plus à destination du grand public ?
Ça peut avoir un peu un effet domino, effectivement. On ne va pas dire qu'on exclut le grand public, bien sûr. Mais souvent, ça les intéresse, ça peut moins les intéresser, on va dire. Mais finalement, c'est un peu notre public, c'est un peu le public final. Nous, notre public cible, c'est les personnes en posture d'animation. Et finalement, ces personnes qui animent vont animer auprès du grand public. Donc nous, on vient faire en sorte d'outiller les animateurs pour qu'eux-mêmes, finalement, puissent transférer tout ça au grand public.
Est-ce que vous avez des retours de cette transmission au grand public ? Est-ce que les collectivités vous reviennent vous voir pour dire « nous, on a mis ça en place dans notre commune pour que le grand public soit au fait de ce qui se passe, au point de vue développement durable ?»
C'est vraiment des choses qui sont difficiles à mesurer. En fait, il faudrait vraiment prendre un temps énorme pour aller évaluer ça sur les territoires. Donc, on ne le fait pas d'une façon, on va dire, on le fait d'une façon qualitative et pas forcément quantitative. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des remontées d'informations, ce qui nous conforte aussi hein, dans notre façon d'agir et d'aller vers les territoires. On se dit, bon, bah, ok, ça fonctionne. Mais de là à faire du quantitatif, ce serait vraiment un travail assez monstrueux, en fait.
Et Cécile, aujourd'hui, nous parlons du cadre du développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vont solliciter cet accompagnement au changement ? Un peu plus tôt, vous nous avez parlé du domaine de la scolarité et aussi un petit peu de la dépendance. Quels sont tous les domaines, en fait, que traite l'accompagnement au changement ?
J'avais envie de vous répondre. Dans tous les domaines, on peut avoir besoin et il est nécessaire d'évoluer, de faire évoluer ses pratiques. On peut se questionner en disant, mais quel va être le lien entre un accompagnement dans le domaine scolaire, un lien d'accompagnement plutôt lié à la santé ou un lien d'accompagnement lié à l'environnement ? Le lien, c'est que dans tous ces domaines de la vie en fait, quotidienne, les gens mettent en place des comportements. Et ces comportements, eh bien, ils vont avoir des objectifs, des conséquences, si je puis dire, différentes dans le domaine de la santé, de l'enviro ou scolaire. Les conséquences des comportements ne sont pas identiques, mais en revanche, les comportements, en fait, vont être réalisés pour des raisons identiques. C'est-à-dire, on réalise pas un comportement, en tout cas en le faisant, en pensant directement la plupart du temps aux conséquences qu'il a sur l'environnement, mais en fait on fait des comportements pour des raisons très sociales ou très psychologiques, que peu importe le domaine dans lequel il est effectué. C'est-à-dire que les déterminants des comportements dans tous ces domaines, pour la plupart des cas, sont identiques en fait.
Eh bien merci Cécile Sénémo et Marion Brosseau d'avoir été nos invités aujourd'hui.
Merci à vous. Et on en parlait un petit peu plus tôt, le 21 septembre dernier se tenait la rencontre des chercheurs impliqués dans un cycle de 3 ans de recherche d'action sur l'accompagnement au changement. 3 études de cas ont été présentées, C'est pas faux y était et a tendu son micro à Sonia Dehabreux, qui est ingénieure d'études au laboratoire de psychologie.
C'est l'occasion d'exposer cet exemple d'étude, comment amener un changement des pratiques des agriculteurs pour diminuer l'impact de la qualité des masses d'eau et en lien avec l'intercommunauté de Bayeux Intercom.
Donc on est venu, dans un premier temps, rappeler le contexte, tout simplement, présenter en fait l'accompagnant qui est Bayeux Intercom. Et il s'agit ici en fait de renforcer la conviction que Bayeux Intercom est un partenaire fiable et que les agriculteurs peuvent s'appuyer en fait sur elle en termes d'évolution de pratiques. Effectivement, le diagnostic, il a démontré que les agriculteurs n'étaient pas forcément tous convaincus de l'efficacité des démarches qui étaient proposées par la collectivité. Donc là, en fait, on joue sur l'aspect un peu plus cognitif. On joue sur les croyances dans l'objectif de casser un peu les idées qui pouvaient être assez préconçues en fait sur le rôle de Bayeux Intercom. Comment on fait ? On apporte des connaissances sur le rôle de Bayeux Intercom, sur ses objectifs, mais aussi sur le rôle des partenaires experts et reconnus, donc notamment la Chambre d'agriculture ici. On montre que Bayeux Intercom s'associe vraiment avec des structures qui ont une expertise technique, telle que la Chambre d'agriculture. Donc comment est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On favorise le discours, on axe le discours en fait sur le sentiment de liberté. En psychologie sociale, se sentir libre de ses choix, ça favorise l'envie d'engagement. On agit sur ce qu'on appelle en fait la motivation intrinsèque, le fait qu'on s'engage non pas parce qu'on y est contraint, typiquement en fait les réglementations, mais parce qu'on est vraiment convaincu de l'intérêt pour soi, de l'intérêt pour son exploitation. On présente aussi les différents projets qui ont été menés entre la collectivité et Bayeux Intercom, ce qui permet ici d'activer la norme sociale, en montrant que d'autres agriculteurs ont déjà fait confiance en la collectivité lorsqu'il s'agit de modifications de pratiques vers la préservation de la qualité de l'eau. Donc un autre exemple de ce qu'on est venu activer dans le programme d'action, c'est l'augmentation de la conscience des risques. Pour ça, on vient éveiller en fait la vulnérabilité et l'implication des agriculteurs. On vient jouer un peu plus sur l'aspect émotionnel. Comment est-ce qu'on fait ? On se réfère comme d'habitude à des éléments dont le diagnostic a révélé que les agriculteurs sont plutôt sensibles. Donc, pour éveiller la vulnérabilité, on apporte des connaissances sur les conséquences que peut engendrer la pollution de l'eau, comme le fait que ce soit un enjeu de santé publique, mais aussi le fait que ça puisse avoir un impact sur les conditions de travail. En fait, on leur montre aussi qu'indirectement, ils peuvent être aussi victimes de la pollution de l'eau, entre guillemets, dans le sens où ils ont déjà constaté des modifications climatiques sur leur territoire. Et ces modifications climatiques, elles vont s'aggraver à l'horizon 2050. Donc, ça va aussi impacter en fait le rendement des cultures, en fait la sécheresse, tout simplement, le fait qu'il y ait moins d'eau. Par conséquent, ça peut aussi impacter leurs conditions de travail. Donc là, on s'appuie toujours sur le diagnostic, parce que les conditions de travail, les conditions météo, c'est vraiment un aspect important à préserver pour les agriculteurs. Pour éveiller l'implication, là, on apporte des connaissances sur les causes de la pollution de l'eau, mais toujours dans cette démarche de non-jugement. Ici, en fait, on présente l'agriculture comme une cause parmi tant d'autres, en fait. On apporte également des connaissances sur l'état actuel des captages problématiques. Le diagnostic a révélé que les agriculteurs n'avaient pas forcément connaissance de l'évolution de la qualité de l'eau sur leur territoire, ni en fait des captages dans lesquels ils se situent. Donc une fois qu'on est venu éveiller cette vulnérabilité, cette implication, si on laisse la personne comme ça, vous vous doutez bien qu'il y a de grandes chances qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est parce qu'elle va se sentir un peu impuissante face à la situation. Donc pour que l'agriculteur s'engage dans une pratique, il faut augmenter sa confiance à agir, c'est-à-dire vraiment sa capacité à surmonter les obstacles extérieurs. On leur montre en fait que dans leur environnement, il y a des conditions qui sont facilitantes pour eux. Et donc, comment est-ce qu'on fait la solution ici pour amener les agriculteurs à lutter contre les risques perçus ? C'est le programme d'action, justement, qu'on présente comme un outil parmi tant d'autres, mais vraiment spécifique au volet agricole, pour permettre de préserver la qualité. Il y a d'autres outils pour permettre de préserver la qualité de l'eau, mais ça, c'est l'outil spécifique au volet agricole. Donc, parmi les stratégies d'intervention, pour augmenter cette confiance à agir, l'une consiste à amener les agriculteurs à anticiper les blocages potentiels, en mettant en avant, en fait, l'ensemble des freins spécifiques à chaque action, qui ont été identifiés dans le diagnostic et en répondant en fait par les dispositifs qui sont mis en place par la collectivité pour qu'ils se sentent en capacité de contourner les freins. L'autre stratégie consiste ici à détailler en actions intermédiaires le comportement à réaliser. On vient détailler chaque action en fait en sous-étapes. Ça permet à l'agriculteur de se concrétiser l'action et de se sentir plus en capacité de réaliser l'action parce qu'il connaît précisément toutes les étapes de chaque action. On active également la norme sociale en montrant combien d'agriculteurs ont déjà mis en place l'action, on fait référence au père, et en citant aussi des témoignages d'agriculteurs qui sont déjà engagés dans l'action ou ce qu'ils pensent en fait de l'action typiquement.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
Supraorganism, c'est le nom d'une installation composée de sculptures en verre robotisées, animées par une intelligence artificielle élaborée à partir de données collectées dans une communauté d'abeilles. Rendez-vous à l'abbaye aux Dames de Caen du 2 au 21 novembre pour découvrir gratuitement cette surprenante expérience.
Ce soir, l'enseignante Cécile Dolbeau présente une conférence intitulée « Les nouvelles lois du web, modération et censure » organisée par le Centre Internet et Société, le CEREV, la MRSH et l'Asso Démosthène. Ce webinaire reçoit Romain Badoir, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 2 et membre du laboratoire Charisme. Désinformation, opacité des systèmes de régulation, loi d'encadrement et transformation de la modération, c'est à découvrir ce soir. Toutes les infos sur le site unicamp.fr/recherche/MRSH.
Ce soir à 20h55, France 5 diffuse un documentaire intitulé « Sous le bio, la malbouffe » de Richard Puech. Plongé dans les coulisses des grands industriels pour savoir ce qui se cache derrière les emballages bio de leurs marques iconiques.
C'est pas faux, soit l'accompagnement au changement, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous en podcast sur phoenix.fm. À 13h, vous retrouvez Edgar pour La Méridienne.
Merci à Alan et Guillaume qui réalisaient cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.